Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour l'émission Allons on change, émission conduite par Alternativa, Villefranche-Beaujolais, et on adresse les questions sociétales en lien avec l'urgence climatique, l'environnement et la justice sociale. L'émission ce soir est consacrée à la santé environnementale, l'agriculture et leur lien avec les pesticides.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre.
Dans paysan, il y a pays. Parce qu'au cœur d'un pays, ce qui permet de faire qu'on ait une nation, qu'on se tient tous ensemble, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent.
On est passé du paysan à l'exploitant agricole. Et l'exploitation, elle dit bien ce qu'elle dit.
Ceux qui travaillent la terre sont la variable d'ajustement d'un modèle agroéconomique où ils sont rien. En amont de ce modèle, il y a tout ce qui est l'agrochimie et l'aval, les géants de l'agroalimentaire.
La grande distribution, dont les marges ont augmenté de 80%.
La productivité de l'agriculteur, c'est le produit brut moins ce qu'il a détruit.
On a amené des engrais chimiques pour augmenter les rendements agricoles. Puis voilà ce que ça donne, c'est qu'on a des sols qui ne sont plus capables de nourrir correctement les plantes. Alors on est dans le cercle infernal, on apporte de plus en plus d'engrais pour récupérer cette mort des sols.
Avec la nourriture moderne, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance.
Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant.
Ne faisons pas croire aux Français qu'on pourra cultiver des pommes, des poires ou des fruits sans aucun pesticide.
Pour calmer les agriculteurs, le gouvernement de Gabriel Attal a finalement reculé sur les pesticides.
Aujourd'hui, la perte de consommation est tellement forte qu'on se demande si on ne va pas repartir en arrière en agriculture biologique.
Je pense qu'une grande partie du changement peut venir du consommateur.
Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis à AgroParisTech.
Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Car il y a vraiment quelque chose qui cloche.
Une rupture entre l'écologie et l'agriculture, c'est une folie.
Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
C'est pas le mouvement normal d'un agriculteur de tuer sa terre. Un agriculteur, il veut plutôt que sa terre soit vivante.
Calade
100.9.
Des pesticides dans nos sols que l'on retrouve dans nos assiettes, ce n'est pas nouveau et on en a déjà causé ici dans cette émission. On a causé PFAS, agriculture, alimentation, santé. Et on a voulu saisir l'occasion de cette semaine pour les alternatives aux pesticides qui se déroule du 20 au 30 mars pour remettre une partie du sujet sur le tapis. Et nous rentrons donc dans ce début de printemps qui est un retour aussi des épandages, des pesticides de synthèse dans les cultures et dans nos champs. Alors pourquoi le combat pour un avenir sans pesticides est encore d'actualité ? Pourquoi, de quoi sont faites les offensives aujourd'hui en cours pour réautoriser les substances dangereuses et comment résister ? Avec quel levier de changement pour nous, habitants et habitantes du Beaujolais ? Plusieurs invités pour en discuter et en débattre ce soir. Autour de cette table de Radio Calade, nous avons Edith Oresta. Bonjour Edith.
Bonjour.
Tu es animatrice de la CERN, la coordination en santé environnementale Rhône-Nord, et c'est avec toi qu'on a construit cette émission, car tu es très active au sein de Génération Future, qui organise depuis 20 ans cette semaine pour les alternatives aux pesticides. Tu vas nous expliquer de quoi il en ressort, et on parlera aussi de la coordination. Autour de cette table, il y a aussi Agnès et Laurent. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous habitez à Montanay, à côté de Neuville, et vous êtes les parents de Victoire, décédée des suites d'un lymphome il y a quelques années, et votre témoignage sera précieux pour nous ce soir. J'ai enfin à côté de moi Brieg Clodoré, qui est là, chargé de mission viticulture bio pour Agri Bio Rhône et Loire. Bonsoir, on va parler ensemble de l'observatoire récent et puis aussi de la situation ici des pesticides dans le Beaujolais.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
On commence, Edith, par un petit rappel de ce que c'est que cette semaine aux alternatives contre les pesticides. Cette semaine, elle existe déjà depuis 20 ans.
Alors, cette semaine, c'est un focus. Le reste du temps, nous travaillons effectivement à ouvrir le champ des réflexions sur le lien entre les pesticides et la santé. Mais sur cette semaine en question, qui a été initiée par Génération Future et qui est coordonnée par Génération Future, cette année, elle a pour thème s'unir pour des territoires durables et justes. Et l'objectif est de mettre en lumière les dangers des pesticides de synthèse sur la santé et rendre visibles leurs alternatives viables et saines. Plus de 500 événements se sont organisés entre le 20 et le 30 mars, aussi bien en France qu'à l'étranger. Ça mobilise des citoyens, des associations, des entreprises, des collectivités locales et plus de 50 partenaires nationaux et internationaux.
Et sensibiliser aujourd'hui, c'est encore nécessaire?
C'est plus que nécessaire, parce que nous sommes dans un contexte où on veut reculer encore, alors qu'on savait déjà qu'on était dans une situation terriblement dangereuse avec ce qui se passait, les pesticides encore utilisés, les autorisations encore données, et dans les sols, les résidus de pesticides transformés en PFAS. Donc on est dans une situation où on a aussi énormément parler de l'alimentation, mais il faut parler aussi de l'eau. On est en France avec des centaines de communes où les problématiques de l'eau potable se posent. Donc plus que jamais, et plus que jamais parce qu'on est dans un mouvement de recul, aussi bien en Europe, avec les dispositifs omnibus,
on va en revenir dessus, oui.
Et qu'en France, avec loi Duplomb 1 et loi Duplomb 2.
Et aujourd'hui, tu interviens aussi en tant qu'animatrice de la coordination santé environnementale Rhône-Nord. Tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, cette coordination a été créée il y a presque bientôt 3 ans. Et l'idée, c'est vraiment une plateforme d'échange entre une dizaine d'associations qui avaient chacune leur fil conducteur, le climat, la biodiversité. Et tous ensemble, on s'est posé sur vraiment la question de la santé globale. Quand on détruit la nature, quand on mange, on porte atteinte à la nature donc, et à la santé des personnes. Donc cette coordination, elle permet d'être vigilant, de lancer des opérations et des actions sur un territoire qui va du Val-de-Saône jusqu'au Haut-Beaujolais, avec 2 grands objectifs. Le focus sur les pollutions industrielles, puisque nous sommes dans un territoire où il y a 9 entreprises Céveso, 3 sites industriels très importants, des commissions de suivi de sites où on peut agir. Et puis, nous avons toute la partie du Beaujolais et des viticultures et de l'agriculture dans laquelle nous sommes confrontés à la question des pesticides. Donc voilà pourquoi nous nous sommes constitués. Et notre objectif, c'est vraiment d'élargir à la fois aux associations, mais sans doute à un certain nombre de citoyens. Il faut que nous soyons nombreux pour continuer ce combat, convaincre les élus, surtout locaux, qu'ils ont quelque chose à faire et qu'on ne peut pas attendre l'Europe ou la France, le gouvernement. On peut agir localement.
Et tu as cité Omnibus, donc on va revenir dessus. Aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire encore de légiférer? On a eu déjà plusieurs vagues de droits qui est passé par ici et qui ont permis quand même à un certain nombre de substances d'être interdites. On sait aussi que il y a eu d'autres attaques législatives, notamment je pense à la loi Duplomb 1, qui a malgré beaucoup de personnes qui se soient mobilisées et une signature de pétition qui a été extraordinaire à cette époque-là, c'était il y a à peu près 2 ans.
Oui.
On a quand même le sentiment ces derniers temps d'attaques répétées contre ces lois protectrices.
C'est tout à fait ça et c'est absolument paradoxal puisque jamais on a eu autant de citoyens, d'associations mobilisées et inquiètes. Si on a regardé les sondages pour les dernières élections, on a vu que la priorité, en premier lieu, c'est la santé. Donc, comment peut-on en même temps se rendre compte qu'il y a une mobilisation, que 2 300 000 personnes signent une pétition contre la réintroduction d'un certain nombre de pesticides, donc un grand recul? Et face à ça, ne rien faire et continuer à proposer une loi du plomb 2 et au niveau de l'Europe, un dispositif omnibus qui est alors carrément totalement hallucinant, c'est-à-dire que ça va être des autorisations illimitées, quelles que soient les données de la science, quelles que soient les preuves de la toxicité. On va pouvoir laisser le champ libre à la mise en circulation sur le marché d'absolument toutes les substances sans délai. Sans délai. Donc jusque-là, on limitait en disant en attendant des alternatives. Aujourd'hui, on est dans la semaine pour des alternatives. On sait qu'il y en a et on bloque tout en disant continuer de manière illimitée nos alternatives. Personne ne veut les voir ni les entendre.
On fera certainement une deuxième émission à ce sujet-là parce qu'il y a pas mal d'associations et notamment au niveau du corps médical où il y a des groupements et des réseaux qui se créent pour faire justement le lien entre pesticides et santé. Aujourd'hui quand même, nous on a vu sur le territoire ici en Beaujolais qu'il y avait, je pense au sein de la coordination, nous voulons des coquelicots qui a mené des actions pour essayer de mesurer un petit peu les effets autour des écoles de ces pesticides. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, bien sûr. Nous sommes avec les coquelicots qui fait partie de la coordination. Nous sommes en lien avec Génération Future. Et c'est par le biais de Génération Future que les capteurs ont été mis, 3 capteurs, et qui ont absolument démontré de manière évidente que parler de 5 mètres, 20 mètres ou autre chose, ça n'a pas de sens puisque 700 mètres dans un éloignement de 700 mètres des écoles qui sont là ou des habitations, on a retrouvé des cocktails chimiques absolument gravissimes.
Et je me tourne du coup vers vous parce que vous habitez à côté d'une zone aussi qui n'est pas non plus exempte de tout pesticide. Agnès et Laurent, vous êtes ici ce soir pour venir témoigner d'un drame familial qui s'est passé pour vous. Vous habitez Montanet, à côté de Neuville. Racontez-nous.
Oui, alors effectivement, on habite Montanet, charmant petit village rural. On avait encore des vaches au début quand on s'est installé il y a 25 ans. Okay. Ravi de s'installer à la campagne et une maison.
On est à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon.
Hein. Oui, c'est ça. Et quand on s'est installé il y a 15 ans, on a notre maison sur un terrain jouxtant un champ qui, à l'époque, était en jachère, en friche, un ancien pré à chevaux.
OK.
Et on s'est dit tous les deux, waouh, c'est le paradis.
OK. Et là, vous arrivez.
Donc, on a construit notre paradis familial. On arrive, on avait notre aîné qui avait 4 ans. Si mes souvenirs sont bons, a suivi une deuxième fille. Donc, on a vécu cette deuxième grossesse habitant dans la maison,
okay.
Avec un champ qui n'était pas cultivé encore à l'époque. Et finalement,
troisième grossesse
en 2004. Et là, le champ était cultivé à ce moment-là.
On est sur quel type de culture ?
Multicéréales.
Multicéréales, ok. Ouais.
Grande culture.
Et donc, pendant une dizaine d'années, la bataille contre un cancer.
Alors, notre fille Victoire a été diagnostiquée en 2016 d'un lymphome non-Hodgkinien. Et oui, une dure bataille a commencé à ce moment-là avec des traitements extrêmement violents pendant quasiment une année. Puis une pause pour grâce à une rémission totale et puis des rechutes successives jusqu'à son décès il y a 2 ans.
Et Laurent, un lien qui se fait avec votre environnement, avec le corps médical ?
D'abord, le corps médical nous a dit de pas trop rechercher les causes. Et on a du mal à entendre ça.
Ouais.
On est enseignants tous les deux, donc notre métier, c'est de transmettre.
Ouais.
Et on voit bien qu'on essaye de laisser les gens dans l'ignorance. Je reprends un peu ce qu'a dit Edith, hein, ça rebondit là-dessus. Donc
un corps médical qui botte en touche, qui vous dit de ne pas
soigne,
chercher,
qui soigne,
qui est extraordinaire dans les soins, dans la prévenance, mais qui ne vous demande pas de comprendre.
Non.
OK.
Voilà.
Elle a d'abord été soignée à l'IHOP, hein, au Centre Léon Bérard de Lyon.
Okay.
Et arrivée à 15 ans, elle est passée au pôle adulte à Lyon-Sud. Où là, c'était déjà un autre discours, où on nous a dit que probablement, étant riverain d'un champ, on ne l'a pas dit franchement, mais on nous a bien fait comprendre qu'il y avait de fortes chances que le lymphome était dû à cette proximité.
D'accord. Et donc, du coup, pour vous, c'est d'une très, très dure violence parce que vous habitez ici, quoi. C'est votre maison. Donc, difficile de se dire, je quitte tout et je laisse tomber, quoi.
D'autant plus que les premières années, on a fait notre jardin potager à côté du champ.
Okay. Ouais.
Là où il n'y avait pas de haies. Donc, on a dû prendre tous les traitements. C'était pour notre potager.
Pendant
et Victoire était très gourmande de petites tomates, de choses comme ça, par rapport à ses deux sœurs. Voilà.
Qui était moins ouais, clean ouais, à aller voilà. cueillir dans le jardin.
Notre erreur, ça a été de faire potager au mauvais endroit.
Oui, enfin l'erreur, elle est surtout de pas être informé des risques que ça peut être qui peuvent exister. Et dites souvent, on entend ça du corps médical, une difficulté à pouvoir exprimer de plein fouet un lien entre.
Alors, étant membre du réseau Environnement Santé National qui s'est posé sur la question santé environnementale et pas spécifiquement sur un produit ou un autre. Depuis 17 ans, nous avons constitué un corps de professionnels de santé, quelques-uns, qui ont bien voulu s'y intéresser et qui, modestement et avec leur courage, se forment et informent. D'où, effectivement, la création d'alerte médecins pesticides. Donc, on a un certain nombre de professionnels de santé, mais ils sont très peu nombreux. Et tout notre travail, et ça fait 17 ans, n'a pas permis que plus de professionnels de santé s'intéressent à la question, se forment à cette question et ne laissent pas les gens orphelins, victimes, cherchant des solutions. Moi, je suis particulièrement en colère contre les cancérologues de Léon Bérard parce qu'ils récupèrent beaucoup d'argent pour la recherche. Alors, on peut effectivement soigner, et tant mieux, soigner les gens, trouver des traitements. Mais si on continue à produire des cancéreux, on n'en sortira pas. Donc, il faut qu'à un moment, toute notre société, professionnels de santé d'abord et les autres ensuite, se posent la question des causes et on les recherche et on comprend comment protéger.
Vous nous avez parlé, quand on s'est eu au téléphone en préparant cette émission, d'autres situations dans votre village. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots?
Alors, à l'époque, on dit de la première maladie de notre fille, hein, donc en 2016-2017, elle a rencontré à Léon Bérard, à l'IHOP, une petite fille de son âge, donc à 12 ans, qui souffrait d'une leucémie. Elles ont été soignées en même temps. Et cette petite fille est décédée, elle, des suites de sa leucémie dans l'année qui a suivi.
Et elle donc, habitait Montanay.
Même village.
Même village, ok. Et là-dessus, est-ce qu'il y a un dialogue qui se fait avec les autorités publiques, très localement?
Absolument pas. Alors, il faut dire aussi que nous, on n'a pas dénoncé, on n'est pas rentré dans le combat là-dessus.
Vous me disiez, voilà, pendant la préparation, vous n'étiez pas des militants. Enfin,
non.
Vous n'êtes pas militants. Qu'est-ce qui vous amène à témoigner là, aujourd'hui, ce soir?
On a vécu 8 ans très compliqués. Et pour que les gens prennent conscience que quand la maladie vous touche, c'est peut-être trop tard déjà. Et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Début septembre, je suis allé témoigner pendant un quart d'heure devant ma députée. Elle nous avait invité à un apéro-débat. J'ai pris la parole tout de suite. J'ai parlé de Victoire, de tout son chemin. Et à la fin de mon intervention, j'ai regardé ma députée droit dans les yeux. Et je lui ai dit, je sais que vous avez voté la loi du plomb. Et maintenant, je vous demande en tant que maman, pas en tant que députée, en tant que maman, est-ce que vous voteriez toujours cette loi du plomb? Elle m'a répondu oui.
Et c'est là où on se tape la tête contre les murs, quoi.
Je peux préciser peut-être que cette députée, depuis qu'elle est arrivée sur cette circonscription, je la tanne sur les questions de santé environnementale, je lui donne des infos, j'essaie en permanence. Et j'étais venue, effectivement, dans cette réunion mondaine à Fleurieux-sur-Saône pour appuyer le témoignage et aussi pour parler d'un autre scandale qui est sur sa circonscription, qui est le scandale de BASF, qui a stocké des produits interdits par l'Europe et par la France, alors qu'il est, malgré toutes nos batailles, nous n'avons encore aucune réaction ni de la préfecture ni du gouvernement. Donc on voit comment. Et donc cette députée continuera et votera s'il y a une loi du plomb 2. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont un cadre dicté par les agrochimistes, par la FNSEA. Ils ont un laïus contre lequel on a pu envoyer des contre-arguments, mais rien ne fait avancer ces questions. Voilà.
On va revenir un petit peu après cette pause médicale sur cette loi Dupont 2 et quels sont les leviers d'action que nous, citoyens, on peut aussi mettre en route pour essayer de continuer à vivre au mieux dans notre environnement.
Regardez-la danser. Quand elle s'approche du ring, la boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse, sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang.
100.9.
Et nous venons d'entendre la boxeuse amoureuse de Arthur H. Et on poursuit notre discussion sur les pesticides et leurs dangers pour la santé en tentant maintenant de cerner un petit peu les leviers d'action qu'on pourrait avoir localement, qu'on peut avoir localement. Mais avant ça, Edith, je voulais revenir très rapidement avec toi sur ces questions de législation et sur cette posture. Enfin, le témoignage qu'on a eu là est quand même d'une énorme violence quand les députés et tous les députés de nos circonscriptions ici dans le Beaujolais ont voté pour la première loi Dupont. On en a une seconde là qui arrive. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?
Il se passe tout simplement, et je pense qu'il ne faut pas se cacher les mots, que les lobbies agrochimiques sont beaucoup plus forts et phyto et ceux qui nous, les pharmaceutiques, pardon, ils nous rendent malades et ils proposent de nous soigner. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre qu'on est dans ce système-là et que à tous les niveaux, locaux, régionaux, partout, tous les citoyens doivent se prendre en main parce qu'effectivement, après avoir été 2,5 millions à signer contre cette première pétition, on nous en sort une deuxième qui n'est absolument pas une nouveauté. C'est à peu près la même chose réécrite par la FNSEA d'une manière un peu différente, mais tous les contenus de la première loi sont là. Donc on voit très bien qu'il y a un déni absolue de démocratie et une criminalité à vouloir continuer alors qu'on a réellement les impacts santé qui sont très clairs. Et je peux aller plus loin juste une seconde, c'est qu'on est toujours sur une question de réglementation et déjà là, si on regarde les produits qui sont mis sur le marché ne sont pas analysés réellement, c'est-à-dire qu'on analyse que la substance active et que c'est le reste qui est toxique, donc on est déjà sur une supercherie à ce niveau, mais on est encore sur une autre supercherie, c'est qu'on a des réglementations qui parlent substance par substance. Or, nous savons, et depuis Rachel Carson en 1967, que ce sont les cocktails, c'est-à-dire les petites doses, qui sont les plus nocives et qui créent ces pathologies que l'on voit et qui sont évidentes.
Briec, des prises en main. Toi, tu travailles avec Agribio sur les questions de viticulture et la viticulture biologique. La question de prise en main par des viticulteurs, des viticultrices, elle existe déjà sur notre territoire. Et peut-être avant de nous parler de ce que certains et certaines sont en train de faire pour justement pallier les manquements législatifs et les manquements, j'allais dire, criminels hein, de ceux qui nous dirigent. Est-ce que tu peux nous refaire un petit point sur la situation phyto ici dans le Beaujolais?
Oui, ça, je peux le faire en viticulture, parce que c'est vrai que le Beaujolais, c'est la production principale, c'est la viticulture. Sur cette production en viticulture, eh ben, on a une partie de viticulture qu'on appellera chimique, conventionnelle. Une autre partie qu'on appellera peut-être viticulture raisonnée. Alors, il faut savoir que le Beaujolais, c'est un des lieux de création de ce qu'on appelle la mention Terra Vitis, qui est globalement un HVE, haute valeur environnementale un peu augmentée, mais qui n'est pas vraiment très haute en termes de valeur environnementale. Ça, on pourra peut-être y revenir. Et puis après, il y a toute une partie de production qui est en viticulture bio ou en viticulture biodynamique. Et cette partie-là, elle ne représente que 20% du vignoble aujourd'hui. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi, on est tous appelés à manger, à boire l'apéro. On a tous besoin du coup, il y a des agriculteurs qui doivent produire, les agricultrices qui doivent produire du vin, de la nourriture. Et c'est quelle est la solution face à l'utilisation de ces pesticides? Et il y en a beaucoup qui souhaitent justement passer vers l'agriculture biologique parce que souvent, c'est pour des questions de santé.
Pour eux-mêmes.
Pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Et c'est ça la motivation principale. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une récente étude de l'Agence Bio qui dit qu'en fait, la mobilisation première pour l'agriculture biologique, c'est la santé. Après, aussi la santé des sols, la santé de l'air. Tout ça, c'est du bien commun. La santé de l'eau, limiter les pollutions, limiter aussi la destruction de la biodiversité. Ça, c'est les premières raisons pour lesquelles les agriculteurs vont dans ce type de production et font demi-tour par rapport à ce qui est proposé majoritairement.
Et aujourd'hui, tu disais 20% dans le Beaujolais. Est-ce que c'est une statistique, une tendance qui est stable, qui augmente, elle, tu la qualifies quoi ? Dynamique ?
Non, c'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est que on se rend bien compte depuis peut-être 5 ans qu'il y a un biobashing énorme, qu'il y a des politiques qui n'aident plus du tout l'agriculture biologique. Ça représente une toute petite part des aides apportées. On a encore eu, il n'y a pas longtemps, des grosses menaces sur l'agence bio. On va fusionner l'agence bio, ça ne sert à rien. On a eu, il n'y a pas longtemps, un député d'Ardèche aussi qui a dit que globalement, c'était fou de dépenser autant d'argent pour une idéologie qu'est l'agriculture biologique. Enfin, alors qu'en réalité, il y a un rapport de l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, qui date de 2016 et qui fait état de tous les bienfaits, ce qu'on appellerait les externalités positives, tous les bienfaits de l'agriculture biologique sur les sols, la santé, le vivant. Et de façon très concrète, il reprend l'ensemble de ces points-là, prouvant quand même que l'agriculture biologique a vraiment des bénéfices importants. Et malgré tout ça, on a des attaques majeures au salon de l'agriculture, tout le temps, par le gouvernement. Il y a un crédit d'impôt à la bio qui peut aider les paysans et qui, au final, a été raboté encore. Enfin, voilà, on n'a pas du tout une aide. Donc, sur le territoire, la tendance, elle tend à se maintenir difficilement, mais il y en a qui tournent le dos parce qu'en fait, pour une réalité économique, parce qu'aussi, il y a un biobashing et que la consommation a tendance à diminuer.
Et là, on en revient à ce que tu disais un petit peu, Edith, sur justement ce deux poids, deux mesures et sur le fait d'argent. Enfin, on est dans des systèmes très financiers et très capitalistes d'enrichissement d'une petite partie d'industriels et d'agro-pétrochimistes.
Il y a ça, effectivement, et c'est le constat. Et on se rend compte que c'est des montagnes à soulever. En revanche, il me semble, après ce que vient de dire
Brielle,
qu'on a quelque chose à faire en tant que citoyens consommateurs. C'est-à-dire que nous, cette semaine, elle dit qu'on est là pour sensibiliser aux dangers. On est là pour promouvoir des solutions alternatives. Et ces solutions alternatives, elles sont là, à condition qu'on arrête de consommer des vins qui sont pollués, hein, ils ne sont pas potables, s'ils ne sont pas bio. Et donc, effectivement, on a des champs d'action qui sont aussi bien nationaux et européens, mais qui sont locaux. Et il faut appuyer ça. Et il faut appuyer ça avec nos actes quotidiens. Et ce n'est pas une façon de culpabiliser, c'est juste de comprendre que le mécanisme, il doit avoir un double sens.
Et c'est bien ce qui revient aussi de ce qu'on disait avec vous, Agnès et Laurent, sur cette information. C'est-à-dire qu'on fait un potager, on se dit chouette, je cultive les choses que moi je fais pousser dans mon jardin, mais on a toutes ces externalités qui viennent finalement nous apporter finalement plus de méfaits alors qu'on pense faire bien. Donc on met les gens dans une fin de non-recevoir quasiment.
On met les gens dans des situations invraisemblable. Et quand même, on a la vallée de la chimie sud Lyon, les scandales Pierre Bénite, Arkema, etc. Et on a vu en 2022, quand il y a eu l'enquête de Vert de Rage, que les gens disaient, mais moi j'avais mon jardin à 50 mètres, 200 mètres, j'avais aucune conscience de ce qui se passait. Donc c'est absolument incroyable.
Ici, dans le Beaujolais, il y a eu, je me souviens, on est habitants de ce territoire, il y avait eu toute une beaucoup de presse et beaucoup de discussions sur les zones autour des écoles qu'il fallait protéger et donc ne pas épandre pendant combien de mètres. Briec, tu as des infos là-dessus ?
Eh bien oui, en fait, à chaque produit, donc pour voir comment ça se passe, un produit est déposé par une firme à l'Agence nationale de sécurité des produits phytopharmaceutiques. Et donc, ces produits-là ont tous des mentions de distance santé-riverain, distance santé, j'ai repris le terme parce qu'il est un peu complexe, mais distance de sécurité personne présente et résidente. Donc, on parle des écoles, on parle des hôpitaux, mais aussi des distances de santé pour les arthropodes, pour les zones aquatiques. Donc, tout ça, ça existe. Alors, je le dis clairement, ça emmerde une partie des agriculteurs parce qu'en fait, c'est pas si facile. Aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple d'un vigneron avec qui j'en ai parlé encore avant-hier, qui me disait qu'à l'école de Chéna, il y a une vigne qui est juste à côté. Ça fait des années et des années que les enfants sortent faire l'école dehors. Superbe idée, en soi. Mais en fait, tout autour de l'école, c'est que des vignes en chimie. Et en fait, en pleine saison, au mois de mai et au mois de juin, c'est les pires moments pour sortir dans la vigne. Et la vigne qui touche l'école, c'est une vigne en agriculture chimique, désherbée. il n'y a aucun moyen qui a été mis en place par la mairie pour protéger les enfants.
Je sais pas, c'est une quelque chose qui appartient à la mairie. Ah oui, tu donnes une solution.
Alors, non, le foncier n'appartient pas à la mairie. La mairie pourrait acquérir le foncier pour en faire autre chose. Ça, c'est une première solution. Mais elle pourrait aussi mettre en place des barrières. Des écrans, par exemple. Ça existe, ça s'est mis en place dans différentes communes en France. Une haie aussi, qui permet au moins de couper à minima, quoi. Et ensuite, au moins, prévenir, avoir un système de prévention. Alors, en Saône-et-Loire, la Chambre d'agriculture a mis en place une application Vigicitoyen, je crois, et qui permet de prévenir quand il y a un traitement en cours.
Donc là, l'agriculteur, l'agricultrice...
À sa bonne volonté.
Voilà, déciderait renseigner l'information et dit, ce matin, je passerai dans ce champ-là ou ce champ-là.
Oui. Okay. Moi, par ailleurs, je suis aussi viticulteur à côté, et je sais que les parcelles où il y a une maison juste à côté, j'envoie un SMS la veille au soir, ou quand je me rends compte qu'il y a du linge qui est en train de sécher, je le range. Alors je me permets de le ranger, c'est en accord avec évidemment les habitants, mais pour éviter. Et j'envoie un petit message en disant laissez pas votre fenêtre ouverte aujourd'hui. Je suis en agriculture biologique, on utilise du cuivre et du soufre qui sont pas dangereux pour la santé, mais quand même c'est un minimum pour vivre en bonne intelligence.
Ok. Est-ce que on parlait de prendre la main, de reprendre, de prise en main par les agriculteurs, les agricultrices. Il y a quelque chose qui nous a motivé à te recevoir ce soir. C'était l'Observatoire d'aménagement sans insecticides pour la santé des écosystèmes, Oasis. Alors au début, on s'est mépris sur le terme Oasis parce que Oasis chez nous ici c'est un peu autre chose. Mais là, cet observatoire, est-ce que tu peux nous en donner deux mots? On a des groupements de viti qui se mettent ensemble pour...
Oui, alors je vais repartir de la base. C'est que depuis 2014, en Beaujolais, ce que je vois, c'est une grosse menace, notamment pour la santé des riverains. Depuis 2014, il y a une maladie qu'on appelle la flavescence dorée, qui est une maladie de quarantaine au niveau européen, donc qui nécessite un arrêté préfectoral de lutte contre cette maladie. C'est une maladie qui est transmise... c'est un phytoplasme, une bactérie sans paroi, qui est transmise par un petit insecte, une cicadelle, une cigale en plus petit, quoi. Et cette cicadelle, elle est volante. Et donc, du coup, il y a trois piliers dans cette lutte. La prospection, voir si les pieds sont malades, l'arrachage des pieds malades, et puis la lutte insecticide. Depuis 2014, le Beaujolais souffre d'une augmentation de cette maladie. Et donc, on a aujourd'hui 75 communes sur 83 dans le Beaujolais qui sont concernées par un traitement insecticide en pleine saison. Je dis un, mais en fait, je suis gentil. En réalité, c'est dans l'arrêté préfectoral, c'est trois traitements obligatoires ou deux traitements obligatoires ou un traitement obligatoire.
Donc, ce sont des choses qui s'imposent aux viticulteurs.
C'est obligatoire. Il y a eu une affaire il n'y a pas longtemps en Bourgogne avec Emmanuel Giboulot qui a refusé de traiter parce qu'il était en agriculture biologique. Il trouvait que c'était un non-sens de à la fois préserver la biodiversité et en même temps de la désinguer après avec un insecticide. En bio, on utilise le pyrét vert, le pyrétre naturel. Globalement, c'est ce qu'on retrouve dans les bombes anti-moustiques à Décathlon. Voilà. C'est du pyrét, c'est des fleurs, c'est un extrait de fleurs. Ça reste quand même dangereux, surtout que c'est à des doses concentrées. Donc, il faut quand même se méfier de cette utilisation. Mais c'est biodégradable déjà, parce que c'est très photosensible, ça brûle avec le soleil. Et puis surtout, on ne retrouve pas de traces dans l'environnement, comme on peut retrouver des traces dans l'environnement. Et là, je reprends l'étude qu'on n'a pas citée encore, mais Pestirive, qui a eu lieu dans le Beaujolais aussi, qu'on retrouve facilement en captation dans l'air, quoi. Juste pour faire un petit point, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quasiment toutes les communes qui sont concernées par un, deux ou trois traitements insecticides en pleine saison, moment où on se régale à faire des randonnées.
Ouais, voilà, ou des balades dehors.
Ou des balades dehors, où on a le potager qui est en pleine production, etc. Y a beaucoup de vignerons en bio, effectivement, qui seraient tentés de ne pas traiter. Alors, c'est une maladie par contagion, parce qu'en fait, c'est vrai que ça... La dérogation en agriculture biologique, c'est interdit d'utiliser des herbicides et des insecticides. C'est interdit par le cahier des charges. Et en gros, là, c'est une dérogation pour rentrer dans le cadre de l'arrêté préfectoral. Donc, il y en a plein qui ont envie d'arrêter. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a la cicadelle, l'objectif, globalement, c'est d'essayer de tuer toutes les cicadelles. Mais c'est impossible. C'est impossible. Il y a toujours des zones de refuge. On ne tue pas le vivant, en fait.
Ouais, ouais.
C'est pas possible. Et donc, du coup, l'objectif pour nous, c'est de dire, si elle a la cicadelle et qu'elle fait sa vie sans avoir ce fameux phytoplasme, là, cette bactérie, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de souci. Donc, il y a des endroits encore dans le Beaujolais où c'est comme ça. Une parcelle, elle peut être saine, sans phytoplasme, et avoir des cicadelles, il n'y a pas de souci. Par contre, ça demande d'aller voir, de compter.
C'est de l'observation.
C'est de l'observation.
Énorme.
Voilà. Et donc, on a face à ça des collectifs. Nous, on met en place quelques essais justement pour limiter l'utilisation de pierres et verres en fonction de s'il y a la présence ou pas de la cicadelle. Et il y a des collectifs de vignerons et de vigneronnes, notamment à Marchand, notamment à Chirouble, qui sont sensibilisés à cette question des insecticides et qui se montent en collectif pour faire des zones où justement on va augmenter les autres piliers. On va plus prospecter, on va plus arracher les vignes si jamais elles sont malades et on va moins traiter, voire pas traiter du tout. Ça fait un an qu'on travaille sur ce protocole avec la LPO, Arthropologia. On travaille aussi avec l'INRAE sur la question de l'eau. On essaie de mettre l'agence de l'eau dans le dispositif. Et en fait, on se confronte aujourd'hui à la DRAF, donc à la branche de l'État, et puis à la Fredon aussi, qui nous dit non, mais c'est trop dangereux pour l'ensemble du Beaujolais de faire ce genre de choses. Et honnêtement, on parle de à peu près 50 hectares, 100 hectares pour les deux lieux, sur 8000 hectares aujourd'hui de traités dans le Beaujolais.
Et pourtant, on va revenir sur Pestirive. C'est pour ça que je dis pourtant, parce qu'on en a parlé, tu l'as abordé tout à l'heure, et c'était une question que j'aurais voulu aborder avec toi, Edith, c'est une enquête qui s'est passée. Qu'est-ce qu'elle nous a dit ?
Alors, je n'ai pas révisé mes notes sur Pestirive, mais je peux dire qu'elle démontre déjà effectivement les conséquences sur la biodiversité, sur la santé. Et donc, effectivement, mais moi, ce que j'entends...
étude qui avait été menée Santé publique France et par l'ANSES, et qui était vraiment très récente, en septembre 2025, et qui a confirmé que l'exposition aux pesticides des personnes qui vivent auprès des vignes était plus élevée que celle qui vivait dans les zones éloignées. Exactement. Donc en fait, elle faisait vraiment un lien, et c'est pour ça que c'est vraiment agaçant d'entendre que... on ne sait pas s'il y a des liens et que l'un et l'autre ne sont pas forcément... il n'y a pas de fait de causalité.
J'ajoute qu'un rapport est sorti en octobre 2025. Il est proposé aux parlementaires. Ça a été une commission. C'est 450 pages sur ces questions de santé environnement et notamment une énorme quantité de documentation sur pesticides en particulier.
Je vais juste aussi rajouter quand même la bonne nouvelle, je ne sais pas encore, mais la CCSB, donc la communauté de communes Saône-Beaujolais, qui avait justement quelques capteurs sur place, sur la communauté de communes, a décidé normalement dans un appel à projet Ecophyto de renouveler pour encore 3 ans la captation justement de cette qualité de l'air dans le Beaujolais. Devait y avoir un comité de pilotage il y a 2 semaines, qui a été décalé pour des raisons politiques. Parce qu'en fait, les agriculteurs ne veulent pas forcément qu'il y ait des captages justement d'air parce que on va peut-être pas continuer cette étude non plus, quoi. C'était dans le cadre obligatoire pour Pestirive. Là, c'est volontaire de la CCSB. Il faudrait peut-être pas quand même trop abuser. Donc, ça a été encore décalé, encore une fois, ce comité de pilotage. Mais on espère quand même pouvoir avoir un suivi pendant plus longtemps, en tout cas, de cette qualité de l'air.
Et ce sera certainement l'objet d'une nouvelle émission, parce qu'on a encore plein de choses à se dire, et que ce lien, justement, entre les capacités qu'on se donne à mesurer les choses pour pouvoir agir, c'est vraiment ce qui est attaqué de plein fouet en ce moment. C'est-à-dire qu'on a bien vu avec Duplomb 1, Duplomb 2, l'Omnibus, qu'en fait, on essaye de... casser le thermomètre. C'est une expression que j'ai pu discuter avec le docteur Perrino, qu'on fera intervenir dans une autre émission, parce que je pense que vraiment il y a du contenu sur quelles sont les dynamiques aujourd'hui qui font qu'on casse le thermomètre pour finalement ne pas voir et ne pas dire qu'on est coupable et quels sont les intérêts qui sont derrière. Merci beaucoup à tout le monde pour votre intervention. Peut-être encore quelques mots sur l'Observatoire. Ça va se dérouler sur combien de temps encore ?
Donc l'objectif, c'est pour l'instant, on est en train de faire passer cet observatoire d'aménagement sans insecticides. L'objectif, c'est vraiment d'aller pouvoir dans ces deux communes évaluer l'impact sur la biodiversité, les oiseaux, les insectes, mais aussi sur la santé des utilisateurs, des riverains, sur le fait de plus traiter. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, aujourd'hui, il n'y a plus que 2 communes dans le Beaujolais qui sont hors traitement, Lucenay et Moiré. Et là, on essaie de mettre 2 communes supplémentaires qui ont connu les insecticides, de les faire sortir de cette lutte insecticide pour justement aller chercher quels sont les bénéfices sur ces 2 communes.
Merci beaucoup. On suivra cette actu de l'Observatoire, de l'Oasis, donc. Et on espère peut-être même pouvoir avoir le témoignage de certains viticulteurs et viticultrices. On s'engage à faire une seconde émission justement avec le docteur Perrineau, et puis on voulait aussi avoir dans notre pool de personnes qui venaient témoigner aujourd'hui cancer colère 69. On a beaucoup entendu sur les médias nationaux cette association cancer colère, et il y a une branche sur le Aura, sur Auvergne-Rhône-Alpes et sur 69 Rhône. Et Sophie Vincent Meyer, bénévole, viendra témoigner. On se donne donc rendez-vous pour une seconde émission toujours sur ce sujet-là. Et en attendant, on va passer une petite pause musicale. D'écouter le bien et le mal de Souad Massi, qui sera bientôt au théâtre cette semaine à Villefranche. Avant de clôturer l'émission avec le conseil lecture de Bertrand de la librairie des Marais, un petit mot de conclusion autour de cette table. Laurent, vous voulez reprendre la parole ?
Eh bien, pour conclure, après tout ce qu'on a entendu et face à l'inconscience des politiques, notre message, ça serait qu'il n'y ait plus jamais de victoire. C'était le nom de notre fille. Hein. Plus jamais de victime. Parce que derrière tout ça, au bout de la chaîne, il y a des gens malades et il y a des victimes. Donc, on va se battre pour que ça n'arrive plus ou de moins en moins.
Et pour se battre, on a des outils et on a des réseaux qui sont importants. Edith.
Oui, merci de m'avoir invité. Je vais lancer cet appel à rallier la coordination, parce que plus nous serons nombreux, plus nous croiserons nos chemins de combat. Et je pense, plus on aura de chance de soulever ce qui nous paraît une montagne. Mais dans la réalité, il y a plein de pistes. Il y a beaucoup de pistes et on peut les inventer et les créer et les construire ensemble.
Un géant aux pieds fragiles, n'est-ce pas, Biriègue? On va y arriver à le faire tomber.
Carrément. Et moi, j'aimerais aussi pouvoir dire que bah, le plus simple pour préserver votre santé, celle des gens qui vous entourent, que vous aimez, et aussi de préserver la biodiversité et le sol, bah, manger bio et local, c'est l'idéal.
Merci beaucoup pour cette conclusion. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission qu'on pourra réaliser avec plusieurs intervenants, notamment avec le docteur Perrineau, qui est fondateur de Alerte des médecins sur les pesticides, et puis de Sophie, de Cancer Colère 69, parce qu'on a ouvert pas mal de champs aujourd'hui et qu'on va essayer de poursuivre ça dans une prochaine émission. Et pour clôturer cette émission-là, voici maintenant le conseil lecture, toujours en thème avec cette semaine pour les alternatives aux pesticides, un conseil lecture de Bertrand Lamure de la librairie des Marais.
Alors, un coup de cœur pour cette chronique. D'abord, c'est une collection à Rue de l'Échiquier qui s'appelle « Agir pour l'environnement ». C'est toute une série de collections. Et là, j'attire un peu l'attention sur l'agriculture industrielle. On arrête tout et on réfléchit. C'est de Jacques Capla. Jacques Capla est à la fois agronome, ethnologue. Il a été conseiller agricole dans les chambres d'agriculture. Il est à l'origine aussi de la création Réseau, semences paysannes. Et dans ce texte-là, qui est évidemment un texte où on arrête tout et on réfléchit, c'est de voir comment l'agriculture industrielle et évidemment très nocive, peut être une imposture, et surtout comment on peut faire évoluer ça, en particulier en allant vers quand même un but qui est l'agriculture écologique et biologique, bien évidemment. Voilà, puisque dans ce texte-là, il est question avant tout de prédation, il est question de pesticides, bien évidemment, et qu'il faut trouver dans la nature et chez les hommes des alliés, que ce soit les arbres qui peuvent être nos alliés, que ce soit la réglementation qui peut être notre allié. Voilà, en tout cas, un texte intéressant et globalement une collection très intéressante, « Agir pour l'environnement », on arrête tout et on réfléchit.
Allez, on a de quoi poursuivre le sujet donc en se plongeant dans la lecture dans la semaine qui vient. Et puis, comme je vous le disais, rendez-vous pour un prochain épisode de l'émission pour réattaquer cette histoire de pesticides et de santé environnementale. Merci à Bertrand de la librairie des Marais. Merci à vous tous et vous toutes autour de cette table. À la technique ce soir, il y avait la super et géniale Gaëlle qui a assuré. Un grand merci à tous nos invités, à Monique et à Jean-Christophe qui ont contribué à cette émission que j'ai eu le plaisir d'animer et de préparer. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir, merci.
Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade.
Ma radio.